Bonjour, cher Columérin. Ah, vous répondez bien, au moins, si vous êtes vraiment des gens bien élevés, c'est très bien. C'est une joie de retrouver l'Assemblée de Colomiers. Dans les années 60, oui, j'ai connu l'Assemblée de Toulouse quand il n'y en avait qu'une, en fait. Hein. Donc j'ai vu la naissance des assemblées de la région toulousaine. Voilà, j'avais 13 ans quand je me suis converti. J'en ai plus de 60 de plus maintenant. Je ne dis pas exactement. Bon. Voilà, donc c'est un plaisir de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous. Alors, je suis de l'ancienne école, moi, vous savez, il me faut le papier. Je sais, ils fonctionnent tous maintenant avec leur smartphone et compagnie. Mais moi, j'aime le contact du papier pour lire ma Bible. J'arrive pas, moi, à lire ma Bible dans un appareil, que ce soit une tablette ou quoi. Ça m'arrive de le faire pour relire un verset que j'ai besoin de redécouvrir ou de chercher un passage. Mais moi, il me faut ce contact physique, c'est important, hein, avec ce livre qui a été écrit et qui nous est parvenu pour nous enseigner jusqu'à ce jour, et qui est toujours aussi pertinent. Il n'y a aucun retard, il est toujours à jour. Hein. Même je pense qu'il est plus à jour que nous, hein, ce livre. Et il sait très bien ce qui va advenir demain. Et il nous le dit déjà, il nous donne des indications, il nous donne des signes. C'est sûr qu'on aimerait tout savoir dans le détail, mais on est là, on a des repères et on sait se repérer dans le temps. On sait que le Seigneur va revenir, qu'il est proche et que nous voulons être prêts pour son retour, et nous voulons continuer à le servir avec joie, d'accord ? Les temps sont difficiles, nous sommes aussi parfois difficiles, donc, mais le Seigneur est fait que nous sommes en lui renouvelés et que nous nous réjouissons de ce que ce retour approche. Il y a de la joie pour nous aujourd'hui encore, il y a de la joie pour toi, la grâce de Dieu est à l'œuvre, tu peux recevoir encore de son abondance ce matin, et tu peux vivre vraiment ta vie avec confiance, avec certitude, être renouvelé et mieux comprendre ce que Dieu attend de toi. D'accord ? Alors on va lire quand même un passage dans l'évangile de Marc. Je vais prendre un passage qui est tellement bien connu, mais peut-être il y aura des choses qui sont abordées de manière un petit peu différente de ce que vous avez eu l'habitude d'entendre. Peut-être, j'espère, être assez pertinent de la part du Seigneur pour vous apporter quelque chose à partir de ce texte que vous connaissez bien. Marc 5, verset 21. Il s'agit de la guérison d'une dame que l'on a, dans les versions modernes, on ne le met plus, mais on l'a appelé la femme à la perte de sang. Bon, c'est pas terrible, hein, c'est pas dans le texte, hein, ce titre-là ne se trouve pas dans le texte. Je trouve que c'est dommage de ramener quelqu'un à son problème de santé ou à sa maladie. Hein. Okay. Donc, j'ai prêché ce message dimanche dernier pour la première fois à Montauban, et je leur ai dit, on ne l'a pas fait, mais on va lui donner un nom, vous voulez bien ? Après, on reste après le culte et on choisit un nom pour elle. Bon, on ne l'a pas fait, hein, en réalité, c'était... Mais c'est une femme digne de notre attention, sur laquelle nous allons nous arrêter ce matin. Jésus regagna en barque l'autre rive du lac. Là, une foule immense s'assemble autour de lui sur le rivage. Survint alors l'un des responsables de la synagogue, nommé Jaïrus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment. « Ma petite fille va mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Alors Jésus partit avec lui, avec Jaïrus, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus Et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement en se disant « Si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. » J'ai de la concurrence, je vois. Je ne sais pas qui va gagner des deux. J'ai le micro, j'ai un avantage, mais quand même il y a de la voix. Voilà, c'est le récit donc de la guérison d'une femme atteinte d'une perte de sang chronique. C'est à la fois un beau récit, simple, comme sont tous ces récits de l'Évangile. Simple dans la forme, mais aussi plein de profondeur, plein de force, plein de vitalité, de sens. Le sens de la relation de foi avec la personne de Jésus. Et ces textes expriment cette relation-là et ce que cela a produit. Nous allons observer la condition de vie de cette femme, suivre sa démarche, sa recherche, son aboutissement et comprendre comment la foi a bouleversé le cours de sa vie, mais aussi en tirer des instructions sur la foi en général. D'accord ? Vous venez avec moi ? On y va ? Quelle est la condition ? Allez, bon, c'est bien, il y en a un qui est partant. Condition de vie de cette femme. On va essayer de la comprendre, même si vous le savez pour la plupart d'entre vous. C'est une femme qui ne peut pas dire son mal, et donc son attente. Le cours de sa vie est dicté par la maladie, essentiellement féminine. Sa maladie apporte une forme de honte sur sa personne. Elle est ostracisée, mise de côté, si vous voulez, pour employer un mot plus courant. Tout devient impur. Les objets qu'elle touche, les personnes qui la touchent, elle est rituellement impure selon la loi mosaïque. Vous lirez, si vous ne me croyez pas, Lévitique chapitre 15. On ne va pas le lire maintenant, hein, mais ce n'est pas l'essentiel. Donc, le sentiment qu'elle porte, dont elle est porteuse, est lourd. Et c'est une maladie qui est plus que physique, à cause des conséquences que cela a pour elle dans sa relation avec les autres, dans sa vie sociale à l'époque. C'est une maladie sociale également. Elle est identifiée, classifiée d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, je dis bien, réduire les gens à quelque chose que l'on sait d'eux qui les a marqués ou qui les marque dans leur santé, parce qu'il faut apprendre qui ils sont. Ils sont au-delà de ce que nous pouvons nous percevoir, parce que Dieu les voit comme lui a voulu les faire et a l'intention de les faire devenir. Amen. Et s'ils n'ont pas le temps sur la terre de le devenir, ils le deviendront dans le ciel et où ils découvriront pleinement qui ils sont. Amen, c'est ce que vous allez découvrir quand vous serez auprès du Seigneur, d'accord ? Et vous direz, mais tu m'avais envisagé comme ça ? Tu me voyais comme ça ? Non, vous avez l'air sceptique ici à Colomiers. Mais vous serez étonné parce que, vous allez dire, malheureusement, je suis resté un peu à côté quand même. Je ne sais pas aller aussi loin que ce que Dieu avait envisagé pour moi et ce qu'il voyait de moi. Bien, je n'avais pas écrit dans mes notes, ça, je regrette. Alors à cause de cette maladie sociale, physique et honteuse, c'est pour cette raison qu'elle n'est pas venue ouvertement vers Jésus, parce qu'on l'aurait repoussée, on l'aurait rejetée, mais elle s'est faufilée incognito au sein de la foule. C'est pour cette raison qu'elle était si embarrassée lorsque Jésus a demandé « Qui m'a touché ?» La femme, se voyant découverte, nous dit le texte. Elle est, c'est pas ce qui va devenir. Alors, c'est une femme épuisée, arrivée à une certaine extrémité, au bout du rouleau. Il nous est dit qu'elle avait dépensé, elle avait dépensé tout son bien chez les médecins. D'accord ? Donc vraiment, elle avait tout essayé pour sortir de son état. Et ça a duré depuis 12 ans. Hein ? Autant de temps que la petite fille de Jaïrus qui a été ramenée à la vie par Jésus. D'accord ? Aussi longtemps, 12 ans. C'est peut-être là, il y a peut-être une corrélation voulue entre ces deux éléments. Alors la démarche de cette femme, elle vient d'apercevoir le chef de la synagogue. C'était un notable du village, du secteur, du coin, d'accord ? Elle vient de le voir qui, d'une manière publique, très visible, s'est jeté aux pieds de Jésus pour venir l'implorer et lui demander secours pour sa petite fille. Ce qu'elle ne pourra jamais faire, d'accord ? Elle ne peut pas. Elle ne pourra pas le faire et s'adresser à lui aussi directement, aussi librement que Jaïrus l'a fait. Quand on voit, vous savez, je vais faire une application tout de suite. J'essaye de me mettre à la place de cette femme. Quand on voit les autres s'exposer aussi librement que Jaïrus l'a fait pour demander de l'aide, d'autres personnes faire part de leurs besoins, de leurs attentes, de leurs prières. On les entend même prier dans les réunions très librement. Et que l'on entend aussi d'autres personnes raconter leurs témoignages de délivrance, de guérison, dont ils ont été bénéficiaires, bien sûr. On peut se sentir, mettez-vous à la place de cette femme, tellement seule, tellement isolée, avec son mal secret, personnel, peut-être avec de la frustration, et on ne sait plus se situer dans l'amour de Dieu, dans son plan et sa volonté. Alors j'aimerais vous dire ce matin, retenez déjà ceci, que ce message aujourd'hui, cette parole s'adresse à ceux qui font monter vers Dieu une prière intime, muette, secrète, ou on l'appellera personnelle, comme celle de la femme de ce récit. Dieu s'intéresse à cette prière-là, d'accord ? La vôtre, celle qui correspond, le titre de mon message, je crois que ça avait été annoncé, je ne l'ai pas rappelé, la démarche de foi. Et nous allons nous intéresser à la démarche de foi de cette femme, d'accord ? Donc c'est autre chose que de l'intercession publique. Hein ? On aimerait tellement qu'on prie pour nous et on entend prier pour les besoins de l'un et de l'autre. Mais Dieu s'intéresse à toi et à ta démarche, à ta prière secrète, à la façon dont tu t'approches de lui. Et c'est ce qui a fait toute la différence pour cette femme. Bien, on continue. Ce qui me touche dans cette histoire, c'est le contact, et j'aimerais essayer de vous le faire vivre un petit peu, entre cette femme et Jésus. Le contact unique qui s'est produit, c'est un contact exclusif, d'accord ? Au milieu de la foule en mouvement, vous imaginez ? Un contact tellement exclusif que Jésus s'est aperçu que quelque chose s'est passé, quelqu'un l'a touché, mais pas comme tous ces gens-là qui le suivaient comme, je ne sais pas, un gourou local peut-être dans leur tête, ça fonctionnait comme ça. C'était autre chose, bien sûr, qu'un gourou, mais on entendait parler de lui, mais peut-être eux, simplement, ils s'intéressaient à tout ce que le monde disait sur Jésus. Et ils voulaient le voir faire des choses, faire des miracles. Mais cherchaient-ils vraiment à le connaître ? S'approchaient-ils avec la même foi que cette femme a démontré dans ce moment-là ? Alors c'est un contact exclusif. Jésus se retourne et pose la question, qui m'a touché ? D'accord ? Qui m'a touché ? Parce qu'il a senti que quelque chose qui était disponible en lui s'est communiqué à quelqu'un. Il n'a pas vu la personne. C'était par derrière. Elle a simplement saisi son vêtement. Et elle s'est en même temps saisie de quelque chose. Et dès le moment où Jésus a fait face à cette femme, qui m'a touché à force, se voyant découverte, elle est venue, elle s'est approchée plus près. Il semblait qu'il n'y avait plus que lui et elle comme seuls au monde. Il y a quelque chose de suspendu dans le temps, d'accord ? C'est un moment d'éternité. Comme quand nous avons rencontré le Seigneur, je ne sais pas, vous avez jamais l'air un peu lugubre ce matin, là, mais souriez. Je ne vous trouve pas... Dans la prière, oui, mais après, dans le contact humain quand même. Manifestez-vous, souriez. Alors, c'est un peu forcé, toi. Hein. C'est pas naturel. Du coup, je ne sais plus ce que je disais, c'est un moment d'éternité. C'est un moment extraordinaire, hors du temps, comme quand on a rencontré le Seigneur. Moi, j'ai vécu des moments extraordinaires, impensables à l'âge de 13 ans. La révélation de l'amour de Dieu m'a été communiquée. Il y avait d'autres jeunes, là, pas mal d'adolescents ou préadolescents, mais une vision incroyable en moi de l'amour de Dieu au travers d'une vision de la croix. Pas sans la personne de Jésus, mais la croix comme sur une colline et l'amour de Dieu qui m'a traversé de part en part, comme je vous dis de part en part, c'était physiquement insupportable. Au bout d'un moment, je disais, Seigneur, je ne sais pas s'il a dû m'entendre peut-être, mais j'étais tout nouveau, je ne savais pas prier. Mais intérieurement, je me disais, si ça continue, il va m'arriver quelque chose, je ne peux pas le supporter. Quoi. Physiquement, c'était trop fort, quoi. Mais c'est ce qu'est l'amour de Dieu. Si un jour il vous le révèle, vous allez prendre une baffe. Hein. Mais une bonne, qui va vous réveiller. Hein. D'accord ? Qui va vous communiquer quelque chose. Ça fait rire certains. Bon. Mais je le rends expressif pour que vous imaginiez un peu ce que ça peut être. Je ne vais pas m'étaler, mais c'était un moment qui a marqué tout le reste de ma vie. Pourquoi je suis là aujourd'hui, d'après vous ? Vous croyez que ça aurait tenu ? Vous croyez que je n'ai pas traversé les épreuves de la vie comme vous ? La vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein. Vous croyez ça, vous ? C'est que vous êtes vraiment encore très innocent. Tout petit, tout jeune. Hein. La vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille, pour personne. Bien. Le contact a été intense lorsqu'elle a saisi le vêtement de Jésus. Le sens du mot grec est beaucoup plus fort que notre simple mot « toucher » en français. C'est beaucoup plus fort. Ça exprime à la fois la force, l'intensité et aussi quelque chose d'intime. Elle s'est saisie de quelque chose. Elle s'est saisie. C'est ma seule chance que Jésus soit ce matin ta seule chance. Amen. Si tu ne le connais pas encore, si tu es tout jeune, si tu as le même âge, il y en a qui semblent avoir le même âge que j'avais. Non ? Combien tu as ? 14 ? Et moi j'avais 13, dit. À un an près. Quelque chose que Dieu fait, c'est vrai, quand il se révèle à quelqu'un. Alors, c'est un acte, celui qu'elle a fait, ce geste, qui semble toucher au fondement même de cette personne, de sa vie, de son identité. Il y a même une violence à cause de l'intensité dans ce geste. Et vous savez que l'Évangile nous dit que ce sont les violents, Jésus nous dit, qui s'emparent du royaume de Dieu. Ce n'est pas la violence du caractère, hein, pas parce que tu as des gros bras et des muscles, hein, parce que tu peux avoir des gros bras et des muscles et être un nain quand même, hein, sur le plan psychologique ou psychique ou spirituel. Alors ne te prends pas plus fort que tu n'es. D'accord ? Ce n'est pas la violence du caractère, de la nature violente de la personne, mais de l'importance des enjeux qui se présentent. Et comme on va le voir, ce n'est pas juste une guérison physique. La foule n'existait plus. Et Jésus a parlé à cette femme comme s'ils étaient seuls au monde. Un moment d'éternité. Elle est rentrée, ou le moment d'éternité est rentré dans le temporel pour elle. Amen. Ou inversement, C'est elle est sortie du temporel pour rentrer dans ce moment suspendu où Dieu agit, Dieu se révèle, Dieu parle. Amen. Gloire à Dieu. Dieu établit une relation unique avec elle, comme il le fait avec chacun d'entre nous. Croyez pas qu'il l'a fait avec d'autres, avec l'aveugle à Jéricho, ou avec le paralytique, les paralytiques qu'il a guéris. Hein. Oui, celui qui a été amené par, vous savez, par le toit, hein, ils l'ont descendu à ses pieds. Bon, il faut s'imaginer en Orient, hein. Il faut s'imaginer au Moyen-Orient, d'accord ? Et quand on y va, on s'en rend mieux, un petit peu plus, on image un peu mieux la chose. Et là, au pied de Jésus, il y a un contact direct, des paroles qui se sont échangées décisives, n'est-ce pas ? Eh oui, bien sûr. C'est vrai avec la femme adultère même, qui a été jetée aussi au pied de Jésus. La loi dit qu'il faut la lapider. Toi, qu'est-ce que tu dis ? Rien. Il a écrit sur le sol. D'accord ? Et puis, cette femme, pendant ces instants, ces minutes, où les gens commençaient, alors que Jésus leur a dit, le premier qui est sans péché se baisse et jette la première pierre, d'accord ? Ils n'ont pas osé. Hein ? Petit à petit, ils ont commencé à reculer et ils se sont éloignés. Mais pendant ce temps-là, ce qui se passait dans le cœur et la conscience de cette femme était bouleversant. Ils l'ont amené prêt à la lapider. Mais le respect, l'amour que Jésus a montré pour elle, avant les mots, par son attitude, a été bouleversant. D'accord ? Personne ne t'a-t-il condamné ? Elle a touché à l'amour de Dieu. Parce qu'elle sait qu'elle est pécheresse. Ne croyez pas qu'elle avait fauté comme elle n'aurait pas dû le faire. Et tout cela va bouleverser son existence. C'est comme ça que les rencontres avec Jésus se font, dans les cadres différents. Votre histoire, elle est unique et c'est la vôtre. La mienne, c'est pareil. Quel Dieu quand même ! Nous avons. Bien. Pour Dieu, cette personne n'a aucun des labels attribués par les hommes. Jésus s'est extrait de la foule et s'est donné à elle, et il l'a aimée comme s'il n'y avait qu'elle à aimer. Alors, quel est le facteur qui a sauvé cette femme ? Jésus l'a identifiée. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Vous en souvenez ? Ta foi, vous connaissez bien le texte, je vois. Ta foi t'a sauvé. On vient de le lire en plus, donc. Ça a été identifié par Jésus, la foi. Ta foi t'a sauvé. Il ne lui dit pas la foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Amen. Comment s'est-elle exprimée cette foi ? Quel processus vertueux s'est enclenché dans son cas ? Il nous est dit d'abord, ayant entendu parler de Jésus. Donc elle connaissait sa réputation, elle savait ce qu'on disait de lui. Peut-être elle avait entendu parler de bonnes choses, d'autres peut-être moins bonnes, parce qu'il refusait de voir Jésus pour ce qu'il était. Elle a reçu des infos qui ont éveillé, une info peut-être, quelque chose en elle. Il y a un signal qui s'est allumé comme un avertisseur. Une opportunité qu'elle perçoit intuitivement. Une porte s'entrouvre dans son univers fermé, restreint, où elle n'entend que le cri de sa propre douleur, de ses propres limites. Elle s'est mise alors à penser, et c'est ce qui a fait la différence, elle s'est mise à penser en termes d'opportunité. Son esprit est resté ouvert. Malgré tout ce qu'elle avait traversé, subi depuis de longues années, son oreille aussi est restée ouverte. Mais c'est plus l'oreille de son cœur qui était ouverte. Savez-vous que nous avons des oreilles dans le cœur et nous avons des yeux. La parole de Dieu le dit. Non ? Si, ah bon, ça va. Bon. Vous avez l'air sceptique des fois. bien, son cœur est resté ouvert au sein des problèmes qui paraissaient insurmontables. Elle se disait en elle-même, elle se parle à elle-même, elle réfléchit, elle commence à envisager les possibilités qui se présentent à elle. Elle pense en termes de possibilités, d'opportunités. Elle soupèse les choses et elle se dit, oui, elle se dit, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement. Quand nous sommes absorbés, vous savez, par les problèmes de la vie, l'adversité, nous avons plus tendance à mettre l'emphase sur nos problèmes que sur les solutions. On est tellement absorbé par la douleur, la souffrance, les préoccupations, les soucis, l'anxiété de ce qui pourra nous arriver demain. Moi, j'ai un côté anxieux, ça paraît pas comme ça, mais il faut que je gère des fois aussi mon anxiété. Pas pour tout, pas dans tous les domaines, mais parfois. Non, vous me pensiez au-dessus de tout ça ? Ben, vous me connaissez mal, hein ? C'est pour ça. Nous devons apprendre alors à penser en termes de solutions, de possibilités et d'opportunités lorsque la crise survient. Parce qu'il y en a. Dieu va vous en donner des opportunités. Il va, vous donner des possibilités. Il faudra les capter. Il va falloir à un moment identifier ce qui vient de Dieu. Et comment Dieu veut vous aider en avançant à sortir d'une telle condition qui peut être la vôtre à certains moments. Et donc la foi qui est là nous pousse à le faire. Si seulement je puis toucher le bord de son vêtement. Elle a imaginé une stratégie, quelque chose de concret, quelque chose de pratique dans le fond. Okay ? Elle aurait pu s'y prendre autrement. L'aveugle, qu'est-ce qu'il a fait à Jéricho ? Il s'est mis à crier. Aie pitié de moi, fils de David. D'accord ? Elle, non. Elle a sa stratégie à elle. OK ? L'aveugle, il ne pouvait pas faire autrement parce qu'on le repoussait. Reste là dans ton coin. Tu es un mendiant. Il a autre chose à faire. Elle fait le point sur ce qu'elle veut vraiment. Mais sa foi est active et en mouvement. Il y a en elle comme un élan vital. Vous vous souvenez du paralytique à la piscine de Bethesda ? Qu'est-ce que lui a demandé Jésus ? La question qu'il lui a posée. Piscine de Bethesda, vous savez, il fallait rentrer dans la piscine, le premier qui touchait l'eau, il était quand même, vous avez l'air de ne pas connaître. Vous me faites honte là, vous vous faites honte à votre pasteur. Hein ? Je vais lui dire deux mots, hein ? Enfin, à votre nouveau pasteur, mais même à l'ancien, hein, parce que je les connais tous les deux. Qu'est-ce qu'il lui a demandé ? Pardon ? Ah, je l'ai entendu. Qui l'a dit ? Quand même. Oh là là, il a fallu du temps pour le sortir. Veux-tu être guéri ? Veux-tu être guéri ? Alors, bien sûr, on est tout de suite attiré par le mot guéri. Mais moi, je suis attiré par le mot veux-tu. D'accord ? C'est-à-dire qu'il fait appel à l'élan vital de ce paralytique qui, depuis toujours, était là. Et il fait appel donc à son élan vital parce que veux-tu, ce n'est pas anodin. Il ne savait plus vouloir. Il ne savait plus vouloir ce que c'était. Parce qu'il était réduit à peu de choses, réduit à son handicap, réduit à son mal, réduit à cette vie tellement restreinte. Alors elle va passer à l'action, cette femme. Vous savez, il ne se passe rien tant qu'on ne passe pas à l'action dans le domaine de la foi. Le fils prodigue, comment il a retrouvé un chemin salutaire ? Parce que quand il a touché le fond, il s'est dit, il mangeait les caroubes, vous savez, qu'on donnait aux cochons. Il s'est dit, chez mon père quand même, il se souvenait de la vie qu'il avait eue là-bas avec papa. Hein. Un papa bienveillant, un papa digne de ce nom. Des pères, on a besoin de pères, c'est tout un sujet. Hein. On a besoin de pères aujourd'hui, vous savez, des vrais. Oui. Mesdames, excusez-moi, on parle beaucoup des dames aujourd'hui, mais je n'ai rien. Pas de problème, hein. On peut continuer. Mais c'est les pères qui ont besoin de se lever. Amen. Eh oui, il se leva dans la maison de mon père. Et il se dit, puis il se leva. Il s'est dit et il s'est levé, comme cette femme. Hein. Elle s'est dit, si jamais je puis toucher. Et puis après, elle y est allée, hein, au charbon, d'accord? Dans la foule, discrètement, se faufilant pour saisir le vêtement de Jésus. Vous savez, les choses ne changent pas tant qu'on ne fait que brasser dans sa tête le problème, la situation, et qu'on se laisse écraser par elle. Il faut apprendre à affronter la peur, le doute, l'appréhension, le qu'en dira-t-on, le regard des autres, parfois. Sa foi va produire un résultat. Elle va faire arriver les choses. Ta foi t'a sauvé, pas la foi, mais ta foi. Parce que c'est une capacité qui nous vient, que nous avons tous, la tienne, celle qui sommeillait en toi. Alors, quels sont les. On va aller un peu plus loin, le dernier pas là. Les perspectives de la foi. La foi a changé le cours de sa vie. Sa vie tout entière a été guérie, pas seulement son corps. Ses relations ont été bouleversées, d'accord? Relation avec elle-même dans une condition nouvelle, relation avec ceux qui la considéraient comme impure. Je pense qu'il y avait des gens bienveillants, certainement, et qui ne restaient pas à la lettre de la loi, mais qui savaient aussi agir intelligemment. Je suppose, je l'espère. Mais donc, sa vie a été complètement changée, bouleversée. Elle retrouve une identité nouvelle. C'est plus la femme à la perte de sang, c'est une femme en possession de tous ses moyens et qui va maintenant agir, qui va maintenant retrouver une place dans sa famille auprès des siens, qui va retrouver dans la société une place et elle va être épanouie, heureuse. Elle aura quelque chose à communiquer de ce qu'elle a vécu. Amen. Ici, on veut dépasser le simple résultat immédiat, c'est-à-dire qui est déjà formidable, une guérison miraculeuse. On dépasse la foi roue de secours pour parler de la foi présente dans chaque aspect de notre vie. Mon juste vivra par la foi. Amen. La foi présente dans toute la vie. La foi, ce n'est pas un substitut disponible seulement à certains moments critiques. Ce n'est pas quelque chose de facultatif ou d'optionnel qu'on utilise qu'à certains moments. C'est une façon de vivre, c'est une façon d'être à la fois. Amen. Eh oui, par rapport à nous-mêmes, par rapport à Dieu en premier, bien sûr, par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres, les trois relations fondamentales que nous avons. Vous saviez que vous étiez en rapport avec vous-même aussi, en relation, non? Ah bon? Vous vous parlez des fois, ça vous arrive? Même dans la rue, ça tant pis si les gens pensent que. Vous inquiétez pas. Bien. La foi est une capacité que nous possédons tous. Elle est activée et entretenue par le contact, la relation avec Dieu, par sa parole, par sa présence. C'est quelque chose d'actif et de dynamique, la foi. Ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas quelque chose de religieux qui nous emprisonne dans un système religieux, dans un système de doctrine, mais le gage de ressources auxquelles nous pouvons avoir accès, c'est relationnel la foi. Pas uniquement, mais c'est relationnel. Ce n'est pas l'apanage de gens faibles. La foi peut transcender les événements, les circonstances. C'est-à-dire, il y a. Quand je dis c'est pas l'apanage de gens faibles, ça dit, c'est fait que pour les gens faibles. Les autres, ils n'en ont pas besoin, vous pensez. Ils sont tellement capables, hein, tellement, ils en imposent. Hein, ils ont de l'argent, ils ont pignon sur rue, ils sont sur tous les médias, les réseaux sociaux, n'en parlons pas. C'est les rois, d'accord? Ce sont des influenceurs. Hein. Bon. Mais ça, c'est la vitrine. Hein. Si vous allez voir dans l'arrière-magasin, c'est pas aussi glorieux. Hein. Non. La foi, c'est pas se cramponner à ce. Parce que les gens se mettent en spectacle, hein, sur les. Ils peuvent le faire, pas tous, je ne dis pas que tout le monde se comporte de la même manière. On peut les utiliser certainement intelligemment. Moi, je ne suis pas à réseaux sociaux, alors ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas m'y trouver. Hein. Je sais pas, c'est plus de mon âge. C'est pas se cramponner à ce que l'on a peur de perdre, la foi. Parce que des fois, ça, par la foi, on est amené à accepter de perdre certaines choses pour en gagner d'autres. C'est pas quelque chose de désordonné, d'effrayé, de désespéré, la foi. Amen. La foi nous permet d'évoluer avec confiance dans la vie. Soyez des gens de foi dans la vie. Amen. Partout où vous êtes, au travail, même si votre situation n'est pas celle que vous voudriez, marchez quand même avec foi, avec confiance, rayonnez un petit peu, laissez rayonner du moins cette foi qui est en vous, cette joie de connaître Dieu qui est en vous. La foi, c'est aussi la foi dans la vie, parce que Dieu est l'auteur de la vie. La foi est, la vie est imparfaite, douloureuse, on l'a dit, par moments injuste, il y a des réalités difficiles à vivre. Ta foi t'a sauvé, littéralement, ça veut dire qu'elle t'a rétabli, qu'elle t'a restauré, qu'elle t'a ramené à un bon état, elle t'a rendu complète, et on le trouve dans en anglais d'ailleurs, dans les versions anglaises, c'est dit « made me whole », c'est-à-dire ça m'a rendu complet, hein. Littéralement c'est traduit sauvé, rendu complète, rétabli dans une fonction normale de la vie. Voilà ce que fait la foi. Amen. Certains sceptiques auront tendance à dire mais la foi ne produit pas à tous les coups. Ce à quoi on peut répondre, sans la foi, les choses ne changent pas. Alors choisissez. Hein. Sans la foi, les choses ne changent pas. J'ai besoin de saisir les choses que Dieu donne. Il y a des prières muettes, comme pour cette femme, car trop intimes, trop confidentielles, trop personnelles, qui n'intéressent que Dieu et celui qui les engendre. C'est entre Dieu et la personne, et vous peut-être. Elles ne peuvent être verbalisées, mais ce manifeste s'exprime par une simple démarche, un simple geste, comme pour cette femme. Alors Dieu connaît certaines de tes prières secrètes. Amen. Et tu peux aller toucher son vêtement. Amen. Hébreux 11.1, j'entendais quelqu'un le citer là, dans l'auditoire. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Amen. Merci Seigneur pour la foi que tu m'as donnée et qui peut encore être réactivée. C'est pas bon. Si j'en ajoute, je vais repartir sur une deuxième prédication, toujours sur la foi, mais c'est pas le moment. D'accord. Il vaut mieux rester avec ça, hein, et recevoir ce que le Seigneur a pu vous dire, vous exprimer au travers de ce texte de l'Écriture. Amen. Merci pour la foi que tu m'as donnée, Seigneur. Amen. Merci pour cette capacité. Amen. Rendez grâce à Dieu. Réjouissez-vous ce matin. Remerciez-le. Amen. Et recevez du Seigneur. Recevez du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, je te remercie pour ces moments. Je te remercie pour l'Église, Seigneur, à la fois de Colomiers, pour ce qu'elle devient. Tu es en train de la conduire. Et merci pour le nom qu'elle s'est donné, Horizon, parce que en effet avec toi il y a tout un horizon que la foi nous permet d'avoir et qui s'ouvre devant nous. Seigneur, vraiment encourage et bénis cette communauté, bénis les pasteurs également qui la conduisent, les responsables spirituels, bénis-les pendant leur retraite, pendant ce week-end, Seigneur, mais bénis aussi chacune des personnes qui sont parmi nous et ceux dont la prière secrète monte vers toi, encourage-les, viens les rencontrer à l'endroit de leurs besoins, à l'endroit de leurs nécessités présentes, peut-être importantes, étends ta main, Seigneur.
Seigneur, confirme ta parole pour ceux qui vont faire une telle démarche et qui vont recevoir une réponse claire, précise, réelle de ta bienveillance, de ton amour, de ta bonté, de ce que tu veux leur dire, Seigneur. À toi la gloire, conduis-nous plus loin dans tes voies et donne-nous de marcher avec joie dans ton service, Seigneur, et dans le rôle de témoin que nous avons également dans ce monde, afin que ta lumière brille devant les hommes en tout temps. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni.